السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. La fois dernière, on s'est arrêté dans la bataille de Uhud, au duel qui a eu entre le compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, et l'idolâtre Siba' ibn Abd al-Uzza. Et on a expliqué que, donc on était toujours au tout début de cette bataille, les deux camps se font face, et pour l'instant on était plus dans une démonstration de force des deux armées et des duels, des tête-à-tête. On avait déjà vu précédemment un duel qui avait concerné Talhah ibn Uthman de la tribu des Bani Abd al-Dar contre Ali ibn Abi Talib, mais on va revenir de toute façon sur ce duel. Et la semaine dernière, on a parlé de ce duel qui a eu lieu entre Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu et Siba' ibn Abd al-Uzza. Et on a dit que ce récit, il est sahih, authentique, il est rapporté par le Bukhari dans son ouvrage As-Sahih, l'authentique. Et en fait, on avait expliqué que cette narration, ces deux hommes, bien après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui revenaient d'un voyage, d'une expédition, et qui sont passés par la ville de Homs, dans laquelle vivait Wahshi, celui qui avait été payé pour tuer Hamza ibn Abd al-Muttalib à la bataille de Uhud. Et un des deux hommes, il a dit à son compagnon de voyage, « Passons par Homs pour rendre visite à Wahshi, il est toujours vivant, donc il était encore vivant à cette époque-là, pour lui demander qu'il nous donne en détail comment s'est passé la mort de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu à la bataille de Uhud. » Et quand ils ont été le voir et qu'ils lui ont posé la question, il leur a raconté comment il a assassiné Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Mais ça, nous pour l'instant on n'y est pas encore arrivé. On est arrivé au tout début de la bataille, Hamza ibn Abd al-Muttalib est encore vivant. Mais ce qui nous intéressait, c'est qu'il leur a aussi raconté, tout d'abord il leur a dit, on m'a montré Hamza et il y a un homme de l'armée idolâtre qui s'est avancé, qui s'appelle Siba' ibn Abd al-Uzza, et qui a défié l'armée des musulmans en disant « Qui d'entre vous oserait venir faire un tête-à-tête ? Qui d'entre vous oserait venir m'affronter en duel ?» Et c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, non seulement qui va sortir, et qui va l'insulter et l'humilier. Il va lui dire au fils de Ummu Qital, Bintu Ummi Ammar, toi le fils de Ummu Qital. Et il va lui dire Ya Ibna Muqatta'ati al-Budur. On avait expliqué que sa mère à la Mecque, elle était exciseuse. L'excision, c'est la circoncision pour les femmes. Et sa mère, la mère de cet idolâtre, c'était elle qui avait l'habitude de faire cet acte à la Mecque. On appelait cette femme. Et donc, il l'humilie à travers cette pratique qu'accomplissait sa mère en disant « Tu es le fils de la coupeuse de ceci. » Et ensuite, il va y avoir le duel et Hamza radiallahu anhu, il va le tuer. La seule chose que Wahshi nous raconte, c'est qu'il dit fa asbaha ka amsi dhahib. Et il est devenu comme hier. Quand Hamza ibn Abd al-Muttalib l'a insulté, il a bondi sur lui, il a dit cette expression, il est devenu comme hier, c'est-à-dire il n'existait plus. En quelques instants, il a perdu la vie. Et ici, il avait l'étendard, cet homme, Sibar ibn Abd al-Uzza. Cet étendard, il va être repris par les Bani Abd al-Dar. Moi, j'ai déjà expliqué plusieurs fois que la tribu des Bani Abd al-Dar à Mecca, c'est la tribu qui a trois rôles. Le rôle de Darun Nadwa, la sorte de parlement. Ils ont une sorte de maison à côté de la Kaaba dans laquelle ils se réunissent pour prendre les grandes décisions importantes, les décisions de guerre, les décisions de paix, les réconciliations, etc. Bref. Et qui s'occupe de gérer Darun Nadwa ? C'est la tribu des Bani Abd al-Dar. Ils s'occupent également d'entretenir la Kaaba. Donc le tissu qui embellit la Kaaba, le nettoyage de la Kaaba, c'est eux qui s'en occupent. Ils ont les clés aussi de la Kaaba. Et ils ont aussi la charge de Al-Liwa, l'étendard. Et donc c'est pour cela qu'on parle des Bani Abd al-Dar lorsqu'ils sont ici, dans à la bataille de Uhud, ils ont le Liwa. Puisqu'on avait expliqué que parmi les ancêtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Qusay ibn Kilab, c'était lui qui avait tous les honneurs de la Mecque. Ces trois dont on vient de parler, plus As-Siqaya et Al-Rifada. As-Siqaya, c'est le fait d'abreuver les pèlerins, Al-Rifada, le fait de les nourrir. Et Qusay ibn Kilab, il a fait hériter un seul de ses fils de tous ses honneurs, c'est justement Abdu'd-Dar. Son fils s'appelait Abdu'd-Dar. Il lui a remis tous ses honneurs avant sa mort. Sauf qu'au moment où Abdu'd-Dar meurt, ses frères, ils n'avaient rien dit, mais au moment où il meurt, ce sont ses fils à lui, les fils de Abdu'd-Dar, qui prennent les cinq honneurs. Al-Siqaya, Al-Rifada, Al-Hijaba, Al-Liwa et Darun Nadwa. Mais les fils des autres, et en particulier les fils de Abdou Manaf, Abdou Manaf c'est le frère de Abdu'd-Dar, ses enfants, et Abdou Manaf c'est aussi l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il descend de qui ? Abdullah, Ibn Abd al-Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, qui est le frère de Abdu'd-Dar. Et donc les enfants de Abdou Manaf, dont l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Hashim, ils vont protester auprès de leur cousin et ils vont dire « Nous refusons que les cinq honneurs soient remis exclusivement aux enfants de Abdu'd-Dar. On doit les partager. » Et le Mouhim, il va y avoir une guerre, il va y avoir un pacte, etc. Bref, on passe les détails. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'en effet, ils vont se partager finalement ces honneurs. Les Abdu'd-Dar, les Bani Abdu'd-Dar, ils gardent l'étendard, l'entretien de la Kaaba et Darun Nadwa. Et les Bani Hashim, les Bani Abdi Manaf, ils vont avoir l'honneur d'abreuver et de nourrir les pèlerins. Et donc ici, quand on parle à Uhud de l'étendard et on parle des Bani Abd al-Dar, c'est dans cette logique-là. Les Bani Abd al-Dar s'occupent de l'étendard. Et on avait dit qu'Abu Sufyan avait provoqué. Il avait provoqué les Bani Abd al-Dar juste avant le début de la bataille en leur disant « À Badr, nous avons perdu. Et tout le monde sait qu'on ne gagne et qu'on ne perd qu'à travers l'étendard. Qu'à travers ceux qui portent l'étendard. Donc si on a perdu à Badr, c'est à cause de vous. Donc puisque vous ne savez pas vous occuper de l'étendard comme il faut, donnez-le nous. parce que Abu Sufyan, il fait partie de la tribu des Bani Abdi Shams. Ils n'ont pas droit à l'étendard. C'est un honneur qui s'hérite de père en fils. Donc Abu Sufyan, il dit, donnez-nous l'étendard à nous, les Bani Abdi Shams. Et là, les Bani Abdi Dal vont dire, nous, on vous a déshonoré avec l'étendard, et bien vous allez voir aujourd'hui ce qui va se passer. Et en effet, on va le voir aujourd'hui. Et donc justement, le premier duel qu'on avait vu, avant celui de Hamza ibn Abd al-Muttalib contre Siba ibn Abd al-Uzza, c'était Talha ibn Uthman qui fait partie des Bani Abd al-Dar. On dit Talha ibn Uthman al-Abdari. Qu'est-ce que ça veut dire al-Abdari? Ça veut dire qu'il fait partie de la tribu des Bani Abd al-Dar. Talha ibn Uthman al-Abdari, il va provoquer en duel les musulmans, et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire « Ya ashab Muhammad, innakum taz'umoun anna allaha yu'ajjiluna bisuyufikum ila al-nar wa yu'ajjilukum bisuyufina ila al-jannah. Fahal ahadun minkum hatta yu'ajjilani بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة. Donc il va les provoquer en ces termes. Il dit, vous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous prétendez que à travers vos sabres Allah nous précipite en enfer, ou à travers nos sabres Allah vous précipite au paradis. Y en a-t-il un parmi vous qui oserait répondre à mon défi pour que soit je le précipite avec mon sabre vers l'enfer, ou soit il me précipite avec son sabre, le contraire, soit je le précipite avec mon sabre au paradis, soit il me précipite avec son sabre en enfer. Et c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui va se lever et qui va le défier et répondre à sa provocation. Et il va gravement le blesser. Et il sera à terre. Et au moment de tomber, et avec le coup d'épée qu'il a reçu, son vêtement également tombe. Et il est dénudé. On voit une partie de sa nudité. Et donc il s'approche pour l'achever. Mais il lui dit, « Ibn Ammi, أناشدك الله والرحيم. Ô fils de mon oncle, cousin. C'est pas son vrai cousin direct, mais dans les grands-parents, ils ont des liens de parenté. Comme on dit, comme on entend quelquefois quelqu'un qui parle, hey, cousin. Pourtant, ils n'ont aucun lien entre eux. C'est juste Zahma pour montrer qu'il est proche de lui. Naam. Donc là, c'est la même chose. Il lui dit, Ibn Ammi, ô mon cousin. أناشدك الله والرحيم. Je t'implore à travers Allah et les liens de parenté qu'il y a entre nous. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il va faire demi-tour. Il va le laisser. Le professeur Hassan, comme il va voir que Ali ibn Abi Talib a gagné le duel, il va proclamer la grandeur d'Allah, il va dire Allahu Akbar. Et les compagnons vont répéter Allahu Akbar. Ensuite, certains compagnons vont dire à Ali ibn Abi Talib, ألا أجهزت عليه؟ Pourquoi tu ne l'as pas achevé? Et il va dire, lorsqu'il est tombé, on voyait sa nudité. Et en plus, il m'a imploré à travers Allah et à travers les liens de parenté qu'il y a entre nous. Pas dans ces conditions. Je ne peux pas tuer un homme comme ça, qui est humilié, parce qu'on voit ses parties. Et en plus, qui m'implore, qui me supplie. Donc, je lui ai laissé la vie sauve. Et lui, cet homme, qui avait défié les musulmans et qui finalement se trouve gravement blessé à terre, il fait partie, c'est un Abdari, il fait partie des Bani Abdiddar. Et donc, il tombe, l'étendard tombe. Et on n'oublie pas que quelques instants auparavant, nous on l'a dit il y a quelques semaines, mais dans la vraie bataille, ça s'est déroulé quelques instants avant. Abu Sufyan est venu Et il les a provoqués, il les a humiliés en disant « Si vous ne savez pas vous occuper de l'étendard, donnez-le-nous. » C'est-à-dire l'étendard, il doit être toujours haut, quoi qu'il arrive. Et là, par deux fois, il est tombé. Dans le duel avec Siba ibn Abdel Uzza et dans le duel avec Talha ibn Uthman. Et donc là, force est d'admettre, alors tout ce qu'on va dire ici, tous les duels qu'on va voir à présent, ils sont rapportés dans plusieurs versions. Ibn Ishaq, Rahiq al-Makhtoum, Tabari. Mais les chaînes de transmission ne sont pas authentifiées, si ce n'est pour deux duels, on les verra tout à l'heure, certains les auront rendus authentiques. Ici, comme l'étendard est tombé par terre, force est d'admettre que c'est Bani Abdiddar, et en particulier une famille parmi les Bani Abdiddar, vont faire preuve d'un courage qui force l'admiration. Non. Bien sûr, les musulmans font preuve de plus de courage, mais quand dans le camp d'en face, on a des gens, même s'ils sont dans le faux, qui sont extrêmement courageux, il faut être capable de l'admettre. Et ici, c'est le cas pour les Bani Abdiddar, qui malheureusement se battent pour les mauvaises raisons. Ils ont du courage, mais pour la mauvaise cause. Et le premier homme à se lever, c'est quelqu'un qui est venu avec sa femme et avec ses trois fils dans cette bataille. C'est Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Alors je vous préviens, très probablement vous allez être embrouillé avec les noms. Essayez comme vous pouvez de vous accrocher, mais commençons par lui. Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Il est venu avec son épouse, qui s'appelle Sulafa bint Sa'd. On avait déjà parlé d'elle quand on avait cité les femmes qui avaient accompagné les hommes pour cette armée dans le camp idolâtre. On avait cité Sulafa bint Sa'd et on avait dit elle fait partie des Bani Abdiddar. Et bien c'est elle, c'est l'épouse de ce chef des Bani Abdiddar, Talha ibn Abi Talha. Les idolâtres viennent déjà de perdre deux hommes et leur étendard est par terre. Et cet homme, donc sans aucun doute, il est vu. Par qui ? Par son épouse, au loin. N'oubliez pas que pendant tout ce temps, les femmes idolâtres qui ont accompagné l'armée, elles sont en train de chantonner et d'entonner leurs poèmes. Alors il y a le poème qui dit « Waiha bani Abdiddar, waiha humata al-adbar, darban bi kulli battar. » « Oh, vous, les Bani Abdiddar, allez-y. »« Waiha Bani Abdiddar, allez-y, les Bani Abdiddar. »« Waiha Humat al-Adbar, allez-y, vous qui protégez nos arrières. »« Darban bi kulli battar. » »« Frappez avec tout ce qui est aiguisé. »« Toute lame que vous avez, frappez avec. » Et on a, en plus de ce genre de poème, on a les autres poèmes qui pousse les hommes à aller au-devant et d'affronter les dangers. On a par exemple ce poème qu'elle récite où elle dit « In tuqbilu nu'aniq wa nafrishu namariq aw tudbiru nufariq firaqa ghayri wamiq » Si vous allez de l'avant, nous vous enlacerons et nous vous mettrons à terre les coussins. Et si vous allez en arrière, nous nous séparerons de vous. Firaqa ghayri wamiq, d'une séparation sans fin. Et donc ces Bani Abdiddar, il y a la provocation qui leur avait été faite, l'humiliation d'Abu Sufyan, leur chef, qui les observe, qui regarde, toute l'armée les regarde. Et il y a ces femmes qui chantonnent ces poèmes. Et donc Talha, Ibn Abi Talha, s'avance et il ramasse l'étendard. Et il se met sur son chameau. Et il avance devant l'armée musulmane et il dit « Hal min mubariz ?» Qui osera venir me défier, moi, en duel ? Et là, qui sort de, du lot, c'est le compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, celui que plus tard le professeur Sam désignera en disant Inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyya Az-Zubayr. Chaque prophète a des apôtres. Des apôtres, les apôtres, ça veut dire les compagnons très proches. Chaque prophète a un apôtre ou plusieurs apôtres. Et mon apôtre à moi, c'est Zubayr ibn al-Awwam. Le compagnon Zubayr ibn al-Awwam sort de l'armée musulmane. Et il répond à ce défi. Et lui dit, moi. Et l'autre, Talha ibn Abi Talha, il y a sa femme qui l'observe, il le sait. Il y a sa tribu des Bani Abdiddar qui viennent de perdre deux hommes. Il y a l'armée qui l'observe. Et il y a aussi trois de ses fils. Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari, Kilab ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari et Al-Julas ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Ses trois fils et sa femme, sans parler de ses frères. Son frère Shayba, Abu Uthman, et il y a son frère aussi Abu Sa'd, ala kulli hal. On va revenir sur ces noms. Et donc il saisit l'étendard et le défi, et c'est Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, qui va répondre à ce défi. Et il lui dit alors, avance. Et l'autre est sur un chameau. Zubayr ibn al-Awwam est à pied. Il court. Ceux qui ont vu la scène, dans cette version non authentifiée, racontent qu'il a couru et qu'il a bondi sur le chameau. Il a sauté sur le chameau. Il s'est saisi de Talha ibn Abi Talha et il l'a jeté à terre et ensuite il a rebondi sur lui et il l'a tué. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de se défendre. Et vous avez ici, évidemment, ça dure quelques secondes. Et l'étendard, il tombe une nouvelle fois. C'est la troisième fois que l'étendard tombe. Et le troisième homme du camp idolâtre qui meurt, et en particulier de la tribu des Bani Abdiddar qui ont la charge de l'étendard. Et après lui, un de ses frères va vouloir le venger. Et donc il va s'avancer, il va prendre l'étendard et il va entonner un poème dans lequel il va dire « Inna ala ahli al-liwa'i haqqa an tukhdab as-sa'datu aw tandaqqa. Inna ala ahli al-liwa'i haqqa. » Il fait partie du devoir des gens de l'étendard, donc il parle de lui et de sa tribu, les Bani Abdiddar. Inna ala ahli al-liwa'i haqqa. Parmi les devoirs des gens qui doivent porter l'étendard, an tukhdab as-sa'datu aw tandaqqa. Il tire son épée et il dit que sa lame, parmi les devoirs des gens de l'étendard, c'est que nos épées, soit elles vont être teintes. On va leur faire une teinture aux épées. Une teinture de quoi ? C'est-à-dire elles vont être ensanglantées. C'est ça qu'il veut dire. An tukhdab as-sa'datu aw tandaqqa, ou elles se briseront. Un des deux. Soit on arrive à tuer avec nos sabres nos ennemis et donc elles seront ensanglantées, soit elles seront brisées parce que nous n'aurons pas réussi. Mais c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est qui ça ? C'est Abu Shayba, Uthman, Ibn Talha, Ibn Abi Talha, Al-Abdari, qui est le frère de celui qui vient d'être tué par Zubayr ibn al-Awwam, c'est-à-dire Talha ibn Abi Talha. Et ici, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib qui sort et qui s'occupe de lui. Exactement la même chose qu'auparavant. En quelques instants, le tour est joué. Et son compte est réglé. Et donc, ici, certains disent, certains historiens disent qu'ici, ça, c'est ça qui a mis le feu aux poudres et que les deux armées se sont affrontées. Et d'autres historiens disent qu'il y a encore eu quelques duels avant que les deux armées s'affrontent. Mais quelle que soit la version véridique, puisque aucune des deux n'a été authentifiée, ce qu'on sait, selon des versions qui n'ont pas été authentifiées, c'est qu'il y a encore eu des duels, et ces duels, soit s'ils sont authentiques, parce qu'on n'a rien qui permet de le dire et de l'affirmer, soit ils ont eu lieu, selon la première version, pendant la bataille, les gens ils se combattaient l'un à l'un, l'un contre l'autre à Afouane pendant que toutes les deux armées se combattaient, ou soit avant que les deux armées se combattent. Les deux sont plausibles. Et donc nous, on va d'abord s'attacher à ça. Avant de parler de la grande bataille qui va avoir lieu, on continue sur ces duels qui vont être la suite et la conséquence de ce qui vient de se passer. Trois hommes des Bani Abd al-Dar, quatre hommes plutôt ont été tués. Siba ibn Abd al-Uzza par Hamza. Ensuite, Talha ibn Uthman par Ali ibn Abi Talib. Ensuite, Talha ibn Abi Talha al-Abdari et son frère Abu Shaybah Uthman ibn Abi Talha al-Abdari. Et le frère de ces deux que nous venons de citer qui ont été tués parce qu'ils ont provoqué un duel, ils ont encore un frère, c'est Abu Sa'd, qui est présent. Et il s'avance. Et il prend l'étendard. Et il vient pour venger ses frères et venger l'honneur de la tribu des Bani Abd al-Dar. Et donc il appelle au duel. Et ici, on a deux versions chez les historiens. On a la version qui nous dit c'est le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, qui répond à son défi, et d'autres qui disent que c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui répond au défi. En tous les cas, tous les historiens s'accordent à dire que ce troisième frère, Abu Sa'd ibn Abi Talha al-Abdari, lui aussi sera tué dans ce défi. Et maintenant, qui va s'avancer alors? Toujours dans la même famille, qui s'avance? Eh bien, c'est le fils de Talha ibn Abi Talha. Lequel? Musafir. Musafir ibn Abi Talha. Sa mère est là, elle le regarde. Il vient de voir son père qui a été tué et deux de ses oncles qui ont été tués. Et il se lève, il prend l'épée, il prend l'étendard et il brandit son épée et appelle au duel. Non. Et lui, c'est un compagnon et pas n'importe quel compagnon, parce qu'on va encore parler de lui, de ce qu'il va faire dans la bataille de Uhud. Le compagnon, et pourtant il n'est pas connu, il n'est pas célèbre, mais c'est un compagnon qui va laisser une empreinte à travers la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, qui est un compagnon de Médine, des Bani Aouf. Donc il s'appelle Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Il va répondre au duel et il va le laisser pour mort. Pourquoi je dis le laisser pour mort? Parce qu'on a des versions qui disent qu'il l'a tué, donc il est mort. Et on a des versions qui nous disent qu'il tombe à terre à cause du coup qu'il reçoit de la part de Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, mais que sa mère va le retrouver encore conscient et elle va échanger avec lui des mots avant qu'il ne meure. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, qui est un compagnon de Médine, répond favorablement à ce duel et il a le dernier mot dans ce duel. Il laisse pour mort Musafir ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Et ensuite, son autre frère sort et prend l'étendard, qui lui aussi, il sait que sa mère est présente et l'observe, la tribu des Bani Abdiddar. Et il sait aussi que il a vu son père qui a été tué, deux de ses oncles, et juste à l'instant, son frère. Et donc il va se lever pour répondre au défi. Et lui, c'est Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, celui qui a tué son père. Zubayr ibn al-Awwam qui va sortir et qui va lui aussi avoir le dernier mot et qui va le tuer. Le dernier vivant parmi les hommes de cette fratrie, il va sortir. C'est qui ? C'est le Julas. Al-Julas ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari, il va reprendre l'étendard, mais lui aussi il va être tué. Et par qui ? Par celui dont on vient de parler tout à l'heure, Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, ce compagnon de Mehdi. Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Selon ses versions, il aurait tué deux des fils de Talha, ibn Abi Talha. Il a tué deux des fils de Talha ibn Abi Talha. Et on raconte, dans une version de Tabari et d'autres, que sa mère, Sulafatu bint Sa'd, à la fin de la bataille, elle va rechercher les corps de son mari et de ses trois fils. Et elle va retrouver Musafi' qui a été tué par son compagnon Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, et elle va lui parler, il va encore parler avant de mourir, et elle va lui dire qui a répondu à ton duel et t'a mis dans cet état. Et il va dire Asim. Alors la version, elle dit tout d'abord il va juste essayer de parler, mais il ne va pas réussir. Et ensuite, elle va insister et il va réussir à balbutier, à dire « Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah ». Et elle va lui demander « Et ton frère, Julas, qui a répondu à son duel et l'a tué ?» Il va dire « C'est lui aussi ». Et ensuite, elle va lui dire « Et Kilab ?» Kilab, c'est qui ? C'est Zubayr ibn al-Awwam qui l'a tué. Elle va lui dire « Et Kilab ?» Et là, il meurt. Il ne va pas lui donner la réponse. Et on raconte que cette femme, elle va faire un serment. Elle va jurer que elle ne s'apaisera de son chagrin que lorsqu'on lui ramènera la tête de Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Donc elle va mettre, contre une somme d'argent, elle va mettre la tête de Asim ibn Thabit ibn al-Aqlah à prix, elle va mettre sa tête à prix. Et là, ce n'est pas juste l'expression. D'habitude, quand on dit sa tête, elle a été mise à prix, c'est pour dire qu'il faut le capturer. Mais ce n'est pas littéralement, il faut ramener sa tête. Mais elle, c'est littéralement. Elle veut la tête. Parce qu'elle explique, elle dit, tant que je n'aurai pas pris sa tête pour prendre le crâne et verser dedans du vin et boire dans ce crâne, Jahiliya, les barbares, et boire dedans, je ne m'apaiserai pas. Et donc elle met la tête de ce compagnon en rançon à prix, elle met un prix sur sa tête, le compagnon Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Et quelques années plus tard, on le verra, le professeur Asim va un jour envoyer une expédition, un petit groupe en expédition, et dans ce groupe il y a Asim ibn Thabit ibn al-Aqlah. Alors, quand cette femme elle va mettre sa tête à prix, il va en entendre parler. Les gens vont lui dire, et donc pour le prévenir, pour qu'il fasse attention, ils vont dire la mère de Julas et Musafi'a, qui t'avait défié en duel à la bataille de Uhud, leur mère, Sulafa bint Sa'd, elle a juré qu'elle ne trouvera la tranquillité jusqu'à ce qu'elle reçoive ta tête et qu'elle prenne ton crâne pour boire dedans du vin. Donc fais attention. Et lui, il va répondre selon ses versions, « Je jure par Allah que je ne permettrai plus à aucun idolâtre de m'approcher et de me toucher, et que je ne me permettrai plus jamais de m'approcher d'un idolâtre ou de le toucher. Il sait qu'il y a un danger. Et donc il dit, Wallahi, que jamais je vais laisser maintenant un idolâtre me toucher ou moi toucher un idolâtre. Et mada, pour éviter le danger. Léana, ça veut dire que les idolâtres, ils vont vouloir la rançon et donc ils vont toujours essayer de trouver un prétexte pour s'approcher de lui, pour le tuer et ramener la tête à Sulafa bint Sa'd. Ensuite, Sulafa bint Sa'd, donc dans cette expédition où Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, ils vont être pris au piège par la tribu des Bani Hudayl, une tribu alliée à la tribu des Quraysh. Et ils vont être assiégés autour de la montagne, et donc ils vont leur dire, ce groupe de la tribu des Bani Hudayl, rendez-vous, et nous vous donnons notre protection, la garantie que nous vous protégerons, et nous vous laisserons la vie sauve. Donc les autres compagnons, ils vont dire à Asim ibn Thabit, descendons, ils nous ont donné la garantie qu'ils vont nous donner la vie sauve. Lui, il va dire, moi je ne descendrai pas pour deux raisons. La première, c'est que j'ai juré qu'aucun idolâtre ne m'approchera et que je ne m'approcherai d'aucun idolâtre. Et donc en descendant de la montagne, je vais faire un parjure. Et la deuxième raison, c'est parce que je ne leur fais pas confiance. Ils ont beau nous donner la garantie qu'ils vont nous protéger ou nous laisser la vie sauve, je ne les crois pas. Les autres, en ce qui les concerne, ils vont descendre. Et dès qu'ils vont descendre, ils vont les ligoter, les Bani Hudayl. Et Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah va dire fort, pour que les compagnons qui viennent de se faire capturer et d'être ligotés, pour qu'ils l'entendent, il va dire, ça c'est la première trahison. Ils vous avaient garanti qu'ils allaient vous laisser la vie sauve, alors pourquoi ils vous ligotent? Ça c'est le premier signe de la trahison. Et donc ils vont protester ses compagnons et ils vont se mettre à les frapper. Non. Et Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah, il va descendre de cette montagne pour tout seul combattre ces idolâtres. Et évidemment, ils sont bien trop nombreux, donc il va être tué. Il va être tué et ils vont le laisser dans cet endroit. Sauf qu'en repartant, les Bani Hudayl ne le savaient pas. Et ils apprennent qu'en fait, l'homme qu'ils ont tué et qu'ils ont laissé derrière eux, c'est Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Celui dont la tête a été mise à prix parce que dans deux des duels, il a tué les deux frères, Al-Julas et Musafir, hein, et leur mère, qui était présente à Uhud, Sulafa bint Sa'd, avait mis sa tête à prix en disant « Je ne trouverai ma totale vengeance que quand on me ramènera la tête de Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah et que j'utiliserai son crâne comme un récipient, un bol pour boire dedans du vin. Tant que je n'ai pas eu ça, je ne serai pas tranquille. » Et c'est pour ça que, comme on l'a dit, Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah a juré qu'il ne s'approchera plus d'aucun idolâtre et qu'il ne laissera plus aucun idolâtre s'approcher de lui. Et donc les Bani Hudayl, ils apprennent qu'il y a une grosse somme pour cet homme. Et donc ils retournent pour récupérer le corps, ou au minimum, la tête, et la remettre à Sulafa bint Sa'd, afin qu'ils puissent avoir leur rançon. Sauf que lorsqu'ils reviennent, ces versions nous disent qu'il y a une armée d'abeilles. Il y a une armée d'abeilles qui est au-dessus de ce corps du compagnon Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Et qu'à chaque fois qu'ils essaieront de s'approcher, les abeilles les attaquent et les piquent. Et donc ils ne peuvent pas s'approcher. Impossible de faire partir ces centaines, ces milliers d'abeilles, et impossible de s'approcher de ce corps. Donc ils vont dire, repartons. Les abeilles ont l'habitude de rentrer dans leur ruche la nuit, nous reviendrons pendant la nuit. Et en partant, il va y avoir des fortes pluies. Et quand ils vont revenir, le corps ne sera plus là, et les versions disent qu'il aura été emporté par l'eau. Et donc, Allah Azza wa Jal, si on en croit ces versions, Allah Azza wa Jal, en réalité, a protégé cet homme, et il a fait en sorte que son serment soit respecté même après sa mort. Quand il a juré qu'il ne s'approchera plus d'aucun idolâtre et qu'il ne laissera aucun idolâtre s'approcher de lui. Et cette femme, Sulafa bint Sa'd, n'a pas réussi à avoir le dernier mot, puisqu'elle avait juré par toutes les divinités qu'elle ne trouvera la tranquillité et la vengeance que lorsque elle aura la tête de Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah entre les mains, pour en faire un bol dans lequel elle boirait du vin. Non. Donc là, on revient là où on s'est arrêté à la bataille de Uhud, l'étendard évidemment est tombé, puisque le dernier qui a été tué et qui avait l'étendard parmi, chez les idolâtres, chez les Bani Abdiddar, c'est Al-Julas ibn Talha ibn Abi Talha Al-Abdari. Et après lui, il y a quelqu'un qui n'appartient pas à cette famille, parce que là on vient de citer six personnes qui appartiennent à la même famille qui viennent d'être tuées pour l'étendard. Talha ibn Abi Talha. Son frère Shaybah Abu Uthman ibn Abi Talha al-Abdari. Leur frère Abu Sa'd ibn Abi Talha al-Abdari. Ensuite, le fils du premier. C'est-à-dire Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Ensuite, le deuxième fils, c'est-à-dire Kilab ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari, et enfin le troisième fils. Donc ils sont six de la même famille. Un homme, ses deux frères et ses trois fils. Un homme, ses deux frères et ses trois fils viennent de tomber en duel pour que l'étendard des idolâtres reste le plus haut possible. Et donc après ça, on a toujours, l'étendard est toujours chez les Bani Abdiddar, c'est eux qui doivent s'en occuper. Mais dans cette famille, il n'y a plus personne. Donc c'est un homme dans la tribu des Bani Abdiddar qui s'appelle Arta ibn Shurahbil al-Abdari. Pourquoi l'Abdari? Parce que ça veut dire qu'il appartient au Bani Abdiddar. Il vient, il prend l'étendard. Et lui, il va être tué par qui? Par Quzman. Un homme qui est surnommé Quzman. Quzman. Il vient, il le tue. Encore un qui tombe. Ensuite, l'étendard va être pris par Shuraih ibn Qarib al-Abdari. Et lui, il va être tué par Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Et enfin, et on s'arrêtera là pour l'étendard, mais c'est là que la bataille va commencer, et il y a le dernier qui prendra l'étendard pour le mettre, pour le faire élever dans le ciel, c'est Shurahbil ibn Hashim al-Abdari. Et lui, il va être tué lui aussi par celui qui est surnommé Quzman. Cet homme Quzman, il vient d'en tuer deux dans les duels des Bani Abdiddar. Et on raconte que dans la bataille de Uhud, il va tuer sept idolâtres, qu'il va se battre de manière très brave et très courageuse. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui parle de Quzman, juste au début de la bataille, qu'on dit Quzman il a tué un tel en duel, Quzman il a tué un tel en duel, il y a des versions qui nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Huwa min ahli nar » Il fait partie des gens de l'enfer. Ajib. Il fait partie des gens de l'enfer. Et allons plus loin. Cet homme va être gravement blessé. Et donc à la fin de la bataille, quand les musulmans vont essayer de retrouver leurs morts et surtout de voir s'il y a des gens qui sont juste blessés pour essayer de les sauver, ils vont trouver Quzman qui est en train d'agoniser. Et ils vont lui dire « Tu as fait quelque chose de grandiose aujourd'hui. Tu t'es combattu de manière très courageuse, très brave, pour Allah et son messager. » Et selon ces versions, il leur aurait répondu « Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour défendre ma ville. » Parce que beaucoup d'historiens disent que Quzman était un hypocrite. Il se serait faussement converti à l'islam. Mais en tous les cas, même si on n'a pas de certitude sur son hypocrisie. La chose que sur laquelle toutes les versions s'accordent, c'est que après cet échange dans la discussion, il n'en pourra plus des souffrances qu'il a, puisqu'il a été gravement blessé, et il va se trancher les veines pour se suicider, pour mettre fin, entre guillemets, pour mettre fin à ses souffrances. Après la mort, Allahu a'lam. Et donc, c'est un suicide. Et quand les compagnons qui ont vécu cette scène vont venir le rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire aux compagnons, Allahu Akbar, ashhadu anni Rasulullah. Allah est le plus grand. J'atteste que je suis le messager d'Allah. C'est-à-dire, il envoie un électrochoc aux compagnons. D'une certaine manière, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, moi je l'ai su, Allah me l'a dit. Mais entre guillemets, je suis comme vous. Je le vois comme vous d'apparence, il a combattu bravement, etc. Et donc peut-être que lui aussi, il attendait l'explication et l'explication, il l'a là. Ça prouve, puisque le suicide est formellement interdit en islam, qu'il va en enfer. Il y a min ahlin nar. Puisque le professeur sallam, selon ses versions, il disait huwa min ahlin nar. Il fait partie des gens de l'enfer. Et donc, même si on prétend qu'il n'était pas hypocrite, le suicide, il est récompensé par l'enfer. Non. Même si après, si un croyant le fait, si Allah Azza wa Jalla ne lui pardonne pas, il passe juste un passage en enfer et ensuite, il va au paradis, puisque les croyants finissent toujours par rentrer au paradis, même s'ils doivent, pour certains, passer un passage en enfer. Non. Ça, c'est Qusman. Et donc, tous ces duels-là, et cet étendard qui est tombé à terre va mettre le feu aux poudres et les deux armées vont à présent s'affronter. Donc c'est les deux armées qui vont se faire face. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer, cette attaque générale des deux armées? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.